Bonjour à tout le monde. On va rajouter en présentation. Donc je suis pasteur sur Bordeaux. Ça fait maintenant, ça fera 11 ans. C'est bon ? Ça fera 11 ans en juin. Je suis marié depuis bientôt 11 ans aussi avec Stéphanie. Et comme l'a dit Alex, on a 5 enfants, Sarah, Léa, Joachim, Anna et Sophia. Ma femme m'a donné l'autorisation de pouvoir venir ce week-end et la laisser avec les 5. Donc je suis reconnaissant parce que l'aîné n'a que 9 ans et la dernière aura 1 an demain. Donc demain après le repas, je risque de partir rapidement justement pour passer cet anniversaire avec ma petite dernière Sophia. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir porter la parole ici parce qu'il y a une petite touche particulière ce matin. C'est que la première fois que je suis rentré dans une église dite évangélique, où j'ai entendu la première fois peut-être l'évangile, c'était il y a 25 ans, j'en ai 35 aujourd'hui. C'est il y a 25 ans, c'est ma maman qui était en contact avec quelqu'un de l'église de Toulouse qui l'avait invité à venir dans son église. Et elle est venue, elle nous a emmenés et c'était cette église-là. J'avais 10 ans. Et en fin de compte, ensuite on a déménagé sur Bordeaux et je n'étais plus jamais revenu. Ça fait 25 ans que je ne suis pas revenu dans cette église. Et je reviens, c'est pour apporter la parole de Dieu. Donc Dieu a fait un travail en moi extraordinaire depuis 25 ans, je vous garantis, parce que ce n'était pas ma sauce trop l'évangile jusqu'à mes 17-18 ans. Mais le Seigneur est venu me chercher et me donne le privilège ce matin de vous apporter la parole et de pouvoir apporter un thème qui est passionnant, mais qui est pas évident, hein, l'objectif dans la course chrétienne. Avant de commencer, on va prier. Père Céleste, je viens devant toi en te demandant d'avoir pitié de moi. Combien tu sais que l'apparence peut paraître trompeuse, avoir l'air à l'aise, mais au plus profond de moi, tu sais qu'il y a beaucoup de crainte, beaucoup de peur, très tremblant. Et je te demande, Seigneur, ton aide, que la puissance de ton esprit puisse m'aider à transmettre ce qu'il y a de plus cher à ton cœur, ta parole, qui est tellement parfaite et je suis tellement imparfait. Elle est tellement sainte et je suis tellement encore loin de ce titre. Père Céleste, je t'en supplie. Calme chaque cœur ici présent à être disponible. Tu sais qu'il est impossible, de manière humaine, à pouvoir nourrir 100 personnes avec des besoins complètement différents. Je ne pourrais pas. Mais toi, tu es capable. Seigneur, je t'en supplie que chaque parole, chaque verset, chaque chose que nous verrons ensemble puisse nourrir ton peuple ce matin. Seigneur, que tu emmènes des personnes à la repentance, d'autres que tu emmènes à progresser avec toi. Seigneur, parle, je t'en supplie encore. Aie pitié encore de moi et de nous ce matin. Tu es tellement saint, tu es tellement parfait. Que toute la gloire te revienne. Je t'en supplie, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Usain Bolt, avant de se mettre dans les starting blocks, il a un objectif, cet homme-là. En tout cas, son objectif, il l'a rempli plus d'une fois. Hein. C'était de gagner, de remporter la course. Et c'est un homme qui s'est entraîné pour atteindre cet objectif. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce thème, je me suis dit, mais en tant que chrétien, pourquoi avoir un objectif ? Pourquoi avoir un objectif ? Je sais déjà ce qui se passe à l'arrivée. Je connais l'arrivée. La Bible dit que je suis plus que vainqueur. Bon, un vainqueur, je sais ce que c'est. Un plus que vainqueur, j'étudie, hein, mais je n'ai toujours pas compris qu'est-ce que c'était un plus qu'un vainqueur. Mais en tout cas, je suis rassuré d'être plus que vainqueur. La Bible dit aussi, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce contexte, il parle aussi de la mort. Le Seigneur dit aussi, je te prépare une place à mes côtés. Donc pourquoi avoir un objectif si on connaît déjà ce qui se passe à l'arrivée en tant que chrétien ? Si j'ai déjà la victoire, pourquoi avoir un objectif ? Pourquoi avoir un objectif si j'ai déjà la victoire ? Alors avant de voir l'objectif ce matin, j'aimerais qu'on voit ensemble la victoire. C'est quoi la victoire en fin de compte ? Quand la Bible parle de victoire, c'est quoi cette victoire ? Alors, je vais, comme on n'a qu'une quarantaine de minutes, je ne vais pas tout développer, mais cette victoire, premièrement, c'est notre salut en Jésus-Christ. C'est notre salut en Jésus-Christ, cette victoire. C'est le fait d'avoir cette assurance de passer l'éternité auprès de Dieu. Et cette victoire a été remportée à la croix par Jésus-Christ, l'endroit le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité, où la justice et l'amour de Dieu ont été réunis. Notre cerveau, des fois, veut les dissocier, mais Dieu a réuni justice et amour pour vaincre le péché, pour vaincre la mort et nous l'accorder et être victorieux en Jésus-Christ. Et je suis victorieux en Jésus-Christ. Il m'a donné la victoire sur le péché, je peux dire non au péché. Il m'a donné la victoire sur la mort, je sais que je vais passer l'éternité auprès du Seigneur. La victoire sur cette mort spirituelle et aussi physique, parce qu'il m'accordera un nouveau corps dans sa présence. C'est pourquoi l'objectif du chrétien n'est pas d'essayer d'améliorer ou de conserver son salut. Le salut est la victoire. Il est complet et parfait ce salut. Je le répète, il est complet et parfait ce salut. Pour quelle raison ? Parce que l'auteur de ce salut, il est complet, il est parfait. Il a tout accompli à la croix. Du coup, j'ai tout pleinement en lui. Et je puis tout par celui qui me fortifie. La victoire est acquise en Jésus-Christ. Ceux qui ont comme objectif de conserver ou d'améliorer leur salut vont s'épuiser et vont courir avec un handicap. Parce qu'ils n'auront pas le bon objectif ici-bas. Et vous allez être découragés de manière constante. L'objectif de ma course chrétienne, c'est de ressembler à Jésus-Christ. L'objectif de ma course chrétienne, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour goûter aux prémices de l'éternité. Pour goûter aux prémices de l'éternité. Et c'est d'avoir les yeux fixés, les regards fixés sur Jésus-Christ. Si Dieu nous demande de tendre vers la stature parfaite de Christ, c'est pour notre bien. Vous savez, dès que je ne veux plus ressembler à Jésus-Christ, ce n'est pas la personne de Dieu qui est affectée. Il est parfait. Son caractère divin n'est pas touché. C'est mon caractère, c'est moi qui suis touché lorsque je ne veux pas ressembler à Jésus-Christ. Alors, on va regarder un premier passage. Et je vous invite à prendre la parole de Dieu dans Philippiens 3. Concernant cet objectif dont l'apôtre Paul parle. On va prendre à partir du verset 4 et on ira jusqu'au verset 16. Je ne pourrai pas tout développer les versets, donc peut-être certains versets, tu vas être frustré parce que je vais aller peut-être aller assez vite dessus. Mais si tu as des questions, après tu peux venir me voir ou voir quelqu'un d'autre. Donc Philippiens chapitre 3 au verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Dans ma Bible, je souligne les « mais ». J'aime beaucoup souligner les « mais ». Verset 7. « Mais, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Passage très riche, hein, qui mériterait peut-être 3-4 prédications sur ce passage. Versets 4 à 6, ici on voit que Paul explique que le salut ne dépend pas d'un système religieux. Hein. Il fait toute une liste, mais on voit que le salut ne dépend pas d'un système religieux. Cette victoire ne peut pas avoir lieu par des efforts humains, quels qu'ils soient. Vous savez, je ne vous connais pas ici. Il n'y en a qu'un que je connais parce qu'il est de mon assemblée, mais tout le reste, je ne vous connais pas. Je ne connais pas vos besoins. Je ne sais pas si tu es un enfant de Dieu ce matin. Je ne sais pas si tu es dans un combat spirituel ce matin. Je ne sais pas quel est ton besoin spirituel. Mais si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, sache que tout ce système religieux, quel qu'il soit, même si tu es né dans une famille chrétienne, qui peut rester un système religieux, ne te sauve pas. C'est seulement ta foi en Jésus-Christ. Et Paul est en train de dire qu'il était parfait par rapport au système religieux. En tant que pharisien, il était au top. Mais cela ne le sauve pas. Et c'est ce qu'il dit ensuite à partir du verset 7 et 9. Il montre que cette course qu'il menait dans le judaïsme était vouée à l'échec sans Christ. Ces choses étaient pour moi des gains, mais je les ai regardées maintenant comme une perte. Même il utilisera le mot comme de la boue. Aucune valeur par rapport à cette vie en Jésus-Christ. Cette nouvelle course, il est en train de parler de son ancienne course et maintenant de cette nouvelle course en Jésus-Christ. Maintenant qu'il a trouvé cette victoire en Christ, il va pouvoir courir de manière différente et bien plus rassurante. Littéralement, le mot « boue » que vous avez ici, c'est les excréments. C'est du fumier. Une course sans Christ est vouée à l'échec. Une course sans Christ est vouée à l'échec. Elle va t'emmener, premièrement, à l'endroit le plus terrible que je souhaite à aucun être humain sur cette terre, la perdition éternelle. C'est pour ça que ce matin, on ne joue pas avec des âmes. Ce matin, je le répète, je ne sais pas si tu appartiens à Jésus-Christ. Mais en tout cas, je sais que ce matin, tu as l'occasion d'accepter Christ dans ta vie pour pouvoir courir la bonne course et avoir le bon objectif, ressembler à Christ. Une course avec Christ, c'est la victoire assurée. Même il parle ici de l'excellence, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. On va développer ça dans quelques minutes. C'est Christ, la victoire. Mes regards fixés sur Christ. Je veux ressembler à Christ, ici-bas. Je ne dis pas que cette course va être facile, et on en parlera, je pense, dans les deux autres messages, mais la course, la victoire de cette course est déjà acquise. Et ça, il faut bien que vous le gardiez. Le salut est acquis. Mais l'objectif d'un homme passionné par Christ, c'est la suite qui nous le montre. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, je vais au verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors la question, c'est quoi ce prix ? Florent est en train de nous dire que la victoire, elle est acquise, que le salut est acquis, mais ici, il est en train de parler du prix de la vocation céleste. Et la vocation céleste, si on comprend bien, on est en train de parler du salut ici. C'est quoi ce prix ? Ce prix qui est marqué ici, ce n'est pas la vocation céleste. La vocation céleste, elle est acquise. La vocation céleste est déjà acquise pour celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Paul ne court pas pour la vocation céleste, il court pour les récompenses de cette vocation céleste. Et ces récompenses seront remises uniquement lorsqu'on sera face à face à notre Seigneur. Donc il court pour les récompenses de cette vocation céleste qui est déjà acquise. Prenez avec moi 1 Corinthiens 3 qui nous aide à comprendre ce verset. C'est ça qui est merveilleux dans la parole, c'est que des fois les versets qui ne sont pas forcément très clairs ou qui peuvent permettre des fois de quelques confusions, il y en a d'autres qui sont là pour les éclairer. Et 1 Corinthiens 3 nous explique un peu cette notion de récompense et qui nous montre que le salut est acquis, mais que le fait de vouloir ressembler à Jésus-Christ et de vouloir vivre ce salut si merveilleux qui nous est accordé, c'est comme travailler à votre salut, c'est pas fait pour le conserver. C'est l'idée d'une pierre qui est là, qui est précieuse, ce salut, et qu'on veut émonder, qu'on veut rendre encore ce diamant, qu'on veut le rendre encore plus beau pour justement donner envie aux autres. Et ce n'est pas le fait de dire « je travaille pour conserver mon salut ». Vous êtes incapable, je suis incapable de conserver mon salut. Je suis incapable parce que je suis imparfait. Ce salut, c'est une grâce de Dieu. Mais 1 Corinthiens 3 nous aide à mieux comprendre ça. On peut lire à partir du verset... On va lire à partir du verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, qui est la base, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour... la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra, notre terme, une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, mais il sera sauvé comme au travers du feu. Il sera sauvé, donc le salut, on ne court pas pour le salut. On court pour mettre en valeur ce salut si cher au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, nous allons construire notre vie chrétienne sur certains matériaux. Et oui, nous aurons des récompenses. Et souvent, le terme, c'est le terme couronne, que l'apôtre Paul parle aussi dans son testament, on dira dans 2 Timothée, quand il dit « J'ai combattu le bon combat de la foi ». Et la couronne de la justice m'est réservée. Et ce mot couronne est utilisé plusieurs fois, on le voit aussi dans 1 Corinthiens 9, 25. Ou dans Jacques 1, 12, ou encore 1 Pierre 5, 4, pour ceux qui prennent des notes. Il y a des couronnes qui sont réservées aux chrétiens. Mais pour cela, il faut ressembler à Christ. Il faut courir, combattre le bon combat. Il faut avoir les regards sur Jésus-Christ. Et le texte nous dit, on revient dans Philippiens, avoir les regards, nous dit le texte, vers l'avant ou vers l'arrière ? Vers l'avant. Paul sait très bien que la perfection et l'impeccabilité n'existent pas tant que nous serons dans ce corps. Mais mes amis, il est possible de ressembler à Jésus-Christ. Il est possible de faire des progrès, parce que la parole nous encourage à faire des progrès, que nos progrès ne sont pas seulement visibles à mes yeux, soient évidents de tous. Est-ce que tes progrès sont évidents de tous ? Depuis combien de temps tu es dans une église locale ? Est-ce que tes progrès sont évidents de tous ? Est-ce que si je vais voir ton pasteur, je peux lui demander « Est-ce que tu as vu des progrès dans la vie de telle ou telle personne ?» Si je vais voir tes collègues de classe ou tes collègues de travail, est-ce que vous avez vu des changements dans la vie de cette personne ? Dans ta famille, est-ce que tes progrès sont évidents ? Est-ce qu'ils voient de plus en plus la personne de Jésus-Christ ? Avoir les regards focalisés devant. Et Paul n'a pas 50 objectifs dans ce passage. Il dit, je fais une chose, pas 50 choses, je fais une chose. Je porte mes regards en avant et je laisse les regards en arrière. Satan veut que tu regardes en arrière. Il veut que tu te focalises sur les choses du passé. C'est une de ses techniques. Il connaît l'humanité depuis des siècles et des siècles et des siècles. Il nous a observés. Il sait comment on fonctionne. Et il veut toujours que tu regardes en arrière. Il veut que tu focalises non seulement tes yeux sur ton passé boueux, mais il veut aussi que tu te focalises sur tous tes objectifs de ton ancienne course. Et il revient et il te dit, mais regarde ce que tu étais. Comment tu veux changer ? Comment tu veux ressembler à Jésus qui est si parfait ? Regarde tout ton passé comme il est. Attends, souviens-toi de tous tes objectifs que tu avais avant de me rencontrer, avant de rencontrer le Seigneur. Mais c'était, garde tes objectifs, ces objectifs-là de ressembler à Jésus, tu n'y arriveras pas. Ça ne sert à rien. Vous avez déjà vu Usain Bolt courir ? Quelqu'un a déjà vu Usain Bolt courir ? Ok. Levez la main ceux qui l'ont déjà vu courir. C'est pas grave si tu ne l'as pas vu courir. Ok. Usain Bolt, est-ce que vous l'avez déjà vu courir comme ça ? L'arrivée est là-bas. Quoique il est tellement fort qu'il prétend gagner comme ça. Mais... Je suis fan. Mais non, Usain Bolt, la ligne d'arrivée. S'il pouvait chambrer ses adversaires en faisant ça, il ne le fait pas parce qu'il voulait toujours battre son record. Il avait toujours les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, pas sur les choses en arrière. Mais la réalité de nos églises, c'est que de nombreux chrétiens et chrétiennes sont paralysés spirituellement. La réalité de nos vies, souvent chrétiennes, c'est qu'on est paralysé parce qu'on a toujours nos regards fixés en arrière. Toujours nos regards fixés en arrière, alors que le Seigneur nous dit « Mais regarde en avant, regarde ce que j'ai fait à la croix pour toi. » Et toi, tu continues à vouloir t'attacher à ton passé boueux, à t'attacher à toutes ces choses qui te pourrissent la vie au quotidien. Pourquoi ? Pourquoi ? Certains ne veulent pas lâcher les déchets de leur passé, d'autres vivent dans une culpabilité constante de leur passé. Et du coup, on perd de vue l'objectif de regarder à Christ et en avant. Vous savez, le passé ne peut pas changer. J'ai fait des choses terribles dans mon passé qui ne pourront jamais changer. Jamais. Mais Christ a changé l'influence du passé dans ma vie. Et je sais de quoi je parle. Vraiment. Sa grâce. Et l'ennemi revient et me dit, mais souviens-toi, Florent, regarde ce que tu faisais dans ton passé. Regarde. Qui, tu te prends pour qui maintenant pour parler des choses qui sont parfaites? Tu crois que les gens vont écouter? Tu crois que Dieu va... Ça lui plaît de ce que tu es en train de faire? Regarde, tu n'as aucune crédibilité par rapport à ton passé. Si, Christ a tout payé à la croix, et je crois cela. Il m'a pardonné, il m'a purifié, pour que je sois un outil puissant. Oh, loin de là d'être parfait, mais je veux tendre vers ça. Je veux ressembler à Jésus-Christ, c'est ça l'objectif. Ressembler à Jésus-Christ, et je ne suis pas motivé par quelqu'un qui est prêt à me taper dessus, mais je suis motivé par l'amour de Christ, tellement qu'il a fait pour moi. Et je veux regarder en avant. Christ change l'influence du passé, c'est la beauté de l'œuvre de la croix. Éphésiens 2 nous dit « Autrefois vous étiez ennemis, morts, maintenant vous êtes vivants en Jésus-Christ ». Vous avez la vie, vous êtes un enfant de Dieu. Donc l'objectif de regarder en avant et de vouloir ressembler à Christ est possible. Autre chose, vous savez, Usain Bolt n'a pas gagné 6 médailles d'or olympiques, 11 médailles d'or aux championnats du monde en écoutant des conférences, en regardant des courses ou en lisant des revues sportives. Peut-être ces choses l'ont peut-être légèrement aidé. Mais la réalité, c'est qu'Usain Bolt était déterminé. Usain Bolt était déterminé dans son objectif. Et l'objectif de ressembler à Jésus-Christ, c'est un sujet qui est large, mais c'est un endroit de notre vie où il faut qu'on soit déterminé. Paul était déterminé. Et on le voit dans notre passage de Philippiens, il était déterminé. Je cours vers ça. Est-ce que je suis déterminé ? Un verset que je vous laisse et que j'espère qu'il va rentrer au plus profond de votre cœur, que vous connaissez par cœur. Mais c'est le problème des fois du par cœur des versets. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je répète, Galates 2:20. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous pouvez dire ce verset, il est génial. Vous pouvez faire une étude théologique là-dessus. J'ai eu le privilège d'étudier 3 ans le grec, 3 ans l'hébreu, et je suis un passionné de doctrine et de théologie. Mais si ce verset n'est juste théologique, est juste quelque chose que je connais par cœur, mais qui n'a aucune influence dans ma vie, je n'ai pas pouvoir ressembler à Jésus-Christ. Mes amis, nous avons le privilège d'avoir Dieu qui a décidé de vivre en moi. Est-ce que vous réalisez ça? Dieu vit en moi. Il le dit dans sa parole. On n'est pas en train de prendre un bouquin qui est en train de dire « Oh, c'est sympa comme formule ». Non, on a la parole de Dieu. Dieu me parle, il me dit « Je vis en toi ». Donc me ressembler, avoir cet objectif de vouloir me ressembler, c'est possible. Mais nous, vous savez ce qu'on fait? Ok, aujourd'hui j'ai ça à faire, ça ne va pas trop plaire au Seigneur. Tiens, mets-toi là et moi je fais ma vie. Mais c'est impossible, il est en toi. Le Saint-Esprit est scellé en toi. Vous savez, les personnes dans mon église qui ressemblent le plus à Jésus-Christ, ce n'est pas celles qui ont fait 3 ans de grec ou d'hébreu. Ce n'est pas celles qui sont passionnées par la théologie. Tout ça, des fois, ça alimente juste mon propre orgueil. Ce sont les personnes qui ont une intimité profonde avec Jésus-Christ. J'ai des petites mamies dans mon assemblée qui sont des femmes de prière, des passionnées de la parole. Et elles ressemblent à Jésus-Christ dans leur attitude quotidienne, dans leur façon d'être, où je suis encore très très loin. Parce qu'elles ont une intimité profonde avec Jésus-Christ. Alors je vais vous donner une application pratique pour commencer à vivre cet objectif de ressembler à Jésus-Christ. Ressembler à Jésus-Christ, je vous le dis, c'est un sujet qui est large. Ça me demanderait plein d'autres prédications. Mais celui que je vais vous partager, ça va se trouver dans Hébreux 12. C'est peut-être le départ. Renoncer au péché. Si on veut ressembler à Jésus-Christ, il faut renoncer au péché. Et pas besoin de faire une liste. Chacun, on les connaît. Prenez Hébreux 12 avec moi. Hébreux 12, versets 1 et 3. Là, pareil, je ne vais pas développer ce chapitre, je vais juste m'attarder sur le péché qui nous enveloppe si facilement. Et vous allez voir qu'on est dans le contexte de la course et on est dans le contexte de l'objectif de regarder à Jésus-Christ pour lui ressembler. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, donc toute cette nuée de témoins, il faut lire le Hébreu 11 qui explique tous ces héros de la foi, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courant, on est dans notre thème, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, l'objectif, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, de toi et de moi, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Quand Usain Bolt court, il n'a pas des poids à ses pieds, il n'a pas des poids sur son dos. En tout cas, je ne l'ai jamais vu au JO ni au champion du monde courir comme ça. Et nous, les chrétiens, on court avec, on se met des poids dans le dos, aux chevilles, et même on est fiers des fois d'avoir ces poids. Rejetons tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement. Je vais assez rapidement sur le mot fardeau et je veux m'attarder sur le mot péché. Le fardeau, dans le contexte ici, je pense que c'est plutôt cette idée de légalisme, de tradition qui pouvait peser sur les gens. Mais on pourrait aussi mettre le fardeau, ça peut être aussi des épreuves. Ça peut être aussi des fois quelqu'un de proche qu'on a tellement envie de gagner à Christ et on croit même à la fin que c'est par nous-mêmes et ça devient un fardeau et c'est pesant parce qu'on le remet pas dans les mains de Christ. C'est quelque chose qu'on met sur notre dos et ça nous traîne parce qu'on veut faire tout par nos propres forces. Alors bien sûr, on est très spirituels, nous les chrétiens. « Oh Seigneur, je te lâche mon fardeau à tes pieds, tu sais, à la croix, tu vas faire ça. » Mais le lendemain, le pardon, on l'a toujours sur nous parce qu'on ne l'a pas lâché. C'est juste qu'on a fait une prière bien sympathique au Seigneur. Mais dans la réalité, est-ce qu'on a lâché ça? Et on va voir que c'est pareil pour le péché. Pour le péché, oh Seigneur, pardonne-moi de ça, mais en fin de compte, le lendemain, on recommence, puis encore, 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 et le péché n'est même pas un accident dans notre vie. C'est quelque chose qui devient une habitude. Et comment voulez-vous ressembler à Jésus-Christ et avoir cet objectif de le ressembler si tous les jours, vous recommencez la même chose? C'est peut-être des choses qui ne vont pas être faciles ou agréables à entendre, mais c'est une réalité de ma vie, c'est une réalité de vos vies. Et pourtant, on veut ressembler à Jésus-Christ, on veut faire des progrès. Mais le péché m'enveloppe, dit le texte, si facilement. Vous savez quoi? Le péché ne dégoûte pas. Et tant que le péché ne va pas te dégoûter, tu recommenceras jour après jour. Le péché, c'est manquer la cible, littéralement. Et la première cible qu'on manque, c'est d'adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Souvent, les gens voient... tout de suite, souvent, quand on parle de péché, quand je parle avec les gars, tout de suite, c'est que la pornographie. Quand on parle avec d'autres personnes, ça peut être de fumer d'autres, ça peut être telle chose ou telle chose. Mais la première chose, c'est que mon cœur n'est pas entier uniquement pour Dieu. Tant que ton cœur ne sera pas entier pour Dieu, le reste ne dégoûtera pas. Tant que tu n'as pas vu et que tu as compris la grandeur, la sainteté de Dieu, ton cœur ne sera pas dégoûté du péché. Et tu recommenceras. Jour après jour. Le péché, au lieu de le lâcher, on s'y accroche. Le péché nous détruit. Mes amis, le péché, il n'y a rien de bon là-dedans. Nous sommes les oui, non, oui avec le péché. Qu'est-ce que tu racontes, Florent ? Pense à quelque chose que tu aimerais te débarrasser. Un péché de ta vie qui te pourrit, que personne ne sait. Parce que vous savez, si je vais prendre chacun de votre vie et prendre les 15 derniers jours de votre vie, vos pensées, vos regards, vos paroles, vos attitudes, vos lieux que vous fréquentez et que je viendrai les afficher ici, vous me payerez très, très, très cher pour que je ne le fasse pas. Et je ferai de même. Nous sommes les oui, non, oui. Alors ce péché, si je te dis, est-ce que tu veux te débarrasser ? Tu me dis, ben oui. Oui, je veux m'en débarrasser. Mais tu vas quand même tomber dedans. Et si tu es comme moi, quand tu tombes dedans, la première chose que tu fais, mais non Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Seigneur, pardonne-moi, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Et puis on recommence, encore oui. Et puis, mais des fois c'est un péché que tu traînes depuis des mois, des années, et que tu n'en peux plus de ça. Et ça t'empêche de ressembler à Jésus-Christ. On a plus honte du regard des hommes que celui de Dieu. Ma bouche veut vivre l'objectif de ressembler à Jésus, mais est-ce que mon cœur le veut ? Pourquoi je tombe dans le même péché tout le temps ? Pourquoi mes progrès ne sont pas évidents ? Parce que mes yeux ne sont pas fixés sur Christ, mais sur ce monde éphémère. Combien on aime s'attacher à ce monde-là, hein ? Regardez ce que dit Moïse, quelques versets qui précèdent. Chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mes amis, tant que nos yeux ne sont pas fixés sur les choses célestes, tant que nos yeux ne sont pas attachés là-haut, le péché ne vous dégoûtera pas. Le péché ne vous dégoûtera pas. Des fois, un des péchés numéro un dans nos vies, c'est aussi l'orgueil. Tant qu'on n'est pas dès qu'on ne veut pas lâcher ces choses-là, on va continuer à ne pas ressembler au Seigneur. Chaque fois que tu pèches, tu ne ressembles pas à Jésus. Et le Saint-Esprit qui est scellé en toi en subit ça aussi. Vous savez, c'est l'histoire de trois singes qui sont là, ils sont en train de se balader et ils voient des cacahuètes. Cacahuètes. Hop ! Clac, 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 trois pièges. Les trois singes, ils se regardent, ils disent, mince, on a chopé la cacahuète, mais on est bloqué. Le premier, il a compris, il lâche la cacahuète. Fou, le piège se relève, il s'en va. Le deuxième, il n'a pas trop envie. Tu peux appeler les autres frères là, singes, de venir prier pour moi ? Ça arrive. Les autres frères, ils prient pour lui. Le piège, il ne se lève pas. Et l'autre singe, il dit, ben, lâche la cacahuète. Non, non, continue à prier pour moi, continue à prier pour moi. Bon, il prie, ça ne marche pas. À un moment donné, il voit que ça ne marche pas, il dit, bon, je vais faire comme toi, je lâche la cacahuète. Ah, et puis le troisième, les yeux, vous savez, comme dans l'âge de glace, là, le singe avec sa cacahuète, là, il ne lâche pas. Pareil, là, comme ça, il attache à sa cacahuète. Fais venir aussi les frères, on prie. Fais venir les pasteurs, là, ils vont me délivrer. Vas-y, mets. Et puis ça vient. Ouais, la cacahuète. Mais lui, il est toujours puré. Il lui dit, mais lâche. Mais il ne veut pas. Mes amis, le péché, c'est la même chose. Vous pouvez faire venir qui vous voulez. Peut-être le symptôme va être traité sur quelques semaines, quelques mois. Mais si tu n'as pas résolu dans ton cœur de dire, je lâche ça, parce que je vois la grâce de Dieu, je vois ce qui s'est passé à la croix pour moi, tu vas répéter encore et encore la même chose. Je vais vous laisser quelques conseils. D'abord, confesser son péché. Peut-être qu'il faudra prendre du temps dans le jeûne et la prière aussi. Hein, ça, on ne l'enseigne pas toujours. Mais s'arrêter personnellement, se retirer dans ces temps de désert, Seigneur. Je viens plier le genou devant toi, j'en peux plus. Je veux lâcher ça. Je veux lâcher ça pour te ressembler. Demander de l'aide à un frère ou une sœur en Christ, l'église locale est faite pour ça. Être persévérant dans ta communion avec Christ, dans la parole. Le psaume 19, hein, vous le connaissez par cœur. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Encore une fois, le par cœur, c'est génial. Mais si tu ne le fais pas. Mes amis, je vous dis aussi une autre chose qui est rarement enseignée dans nos églises. Le fait de ne pas avoir une communion personnelle dans la parole de Dieu tous les jours, c'est manquer la cible. Donc si c'est manquer la cible, c'est péché. On me posait cette semaine, on me dit, Florent, j'arrive plus à avoir goût à la parole. Pourquoi ? Je lui dis, parce que tu es en train de pécher. Quoi ? Oui, tu es en train de pécher. La parole, le Seigneur t'encourage à prendre du temps quotidiennement dans sa parole. Méditez-moi jour et nuit. Bien sûr, il faut dormir, mais c'est l'idée de la constance. Si tu ne prends pas du temps quotidiennement dans la parole de Dieu, alors tu es en train de manquer la cible. Donc oui, ça s'appelle du péché. Ça ne plaît pas au Seigneur. Et tu veux re-rentrer dans un état de lecture de, parole, de la parole de Dieu ou même un programme de lecture sans avoir demandé même pardon avant au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi d'avoir manqué ce jour. Allez, et le Seigneur dit, je suis fidèle et juste pour te pardonner. Allez, on fonce, on avance, tu veux me ressembler, c'est bon, prends du temps avec moi. Notre temps dans la parole de Dieu n'est jamais à négliger. Notre temps de vie de prière n'est jamais à négliger. La source pour ressembler à Christ commence dans la parole, dans la prière quotidienne, avec les frères et sœurs dans l'église locale. Ne vous en privez jamais. Ne vous en privez pas. On va prendre un temps. Je vois que le temps avance, je vais m'arrêter là. On va prendre un temps dans la prière et c'est pas une obligation et je ne vais pas jouer au prédicateur télévisé américain. Mais si certains se sentent poussés après ce temps de prière, peut-être de venir là, il y a peut-être quelques responsables aussi qui pourraient s'avancer, et que tu as besoin de, tu te sens poussé par l'Esprit de Dieu à dire, voilà, j'ai besoin de parler de ce péché dans ma vie, je veux vraiment aussi m'en débarrasser. Je veux peut-être avoir un partenaire qui va m'aider pour m'en débarrasser. Pas que la personne, comme je faisais avec les singes, qui va prier pour vous et que ça va partir. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est déjà confesser et d'avoir quelqu'un qui va peut-être vous aider à vous accompagner. Combien les péchés de ma vie ont pu être débarrassés pour certains grâce à des frères qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné. Alors, on va prendre un temps, tout simplement dans la prière, et je conclurai. Prenez un temps personnel avec le Seigneur et je conclurai ce temps ici. Certains veulent s'avancer, ce n'est pas une obligation, mais on pourra aussi prendre un temps à part après pour discuter et prier. Seigneur, tu vois que nos cœurs qui ont besoin d'être travaillés, secoués par ton esprit, chasse en nous toute cette pensée de « je sais déjà, je connais par cœur ces versets ». Mais vraiment que ta parole puisse inonder nos vies. C'est la seule qui peut vraiment purifier le plus profond de notre être. Tu connais chaque cœur ici, tu connais leur combat, tu connais ce qui les empêche de te ressembler et d'avancer. Tu connais mes propres combats, mes propres luttes, Seigneur. Seigneur, tu veux qu'on lâche des choses dans nos vies qui sont boueuses, qui sont que des pertes, qui n'ont aucune valeur pour l'éternité, afin qu'on te ressemble, afin qu'on soit heureux et joyeux. Combien le péché enlève cette joie. Seigneur, je t'en supplie, travaille encore dans les cœurs maintenant. Tu sais qu'on a à cœur de te ressembler, et ça a un coût de te ressembler. Et tu l'as montré à la croix que ça avait un coût. Je t'en supplie, Seigneur, travaille les cœurs. Et tu vois s'il y a des jeunes hommes ou des jeunes filles qui ont à cœur de vouloir lâcher quelque chose, prendre une décision et s'engager avec un frère ou une sœur. Alors, Seigneur, je t'en supplie que ce moment ne soit pas remis à demain parce que l'ennemi saura encore saisir cette occasion pour dire « bon, c'est pas grave ». Seigneur, je t'en supplie, agis. Agis parce qu'on veut faire des progrès avec toi dans cette course si merveilleuse.